Por primera vez en 20 años.
La rumeur du monde. La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, ce qui nous reste de Rome. Mais en ces temps où la thématique du déclin revient en force, de la menace du déclin, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, avec la montée concomitante de la Chine, nous avons voulu jeter un regard sur le premier grand empire, l'Empire romain. Et nous voulions le faire à partir d'un livre que Xavier Darcos a publié récemment aux éditions Plon, et qui est le Dictionnaire amoureux de la Rome antique, ce qui va nous permettre de nous promener dans cette période et en même temps d'essayer de retracer un petit peu précisément ce qui nous reste de cette Rome antique et de cette Rome impériale dans la culture d'aujourd'hui, dans à la fois dans nos têtes, dans nos usages, dans nos coutumes, ainsi de suite, avec Xavier Darcos aujourd'hui. Et je vais laisser Jean-Claude Casanova nous donner ses quelques notes de lecture avant d'engager la discussion.
Oui, le dictionnaire amoureux de la Rome antique de Xavier Darcos est un dictionnaire, donc on peut l'ouvrir où on veut, on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre alphabétique. Et c'est un dictionnaire amoureux, c'est-à-dire qu'il traduit une profonde connaissance. C'est un livre que je lis souvent depuis que je l'ai reçu, je l'ouvre comme ça au hasard ou bien en cherchant quelque chose, et j'ai été frappé par le profond amour et la profonde connaissance de la littérature latine et de la perpétuelle relation entre la littérature, l'histoire et le rapport au temps présent. C'est-à-dire que les personnages, que ce soit des personnages odieux ou pathétiques comme Messaline, ou des personnages admirables comme Tacite, sont présentés avec une perpétuelle référence au monde moderne. Donc ce n'est pas un livre d'érudits, ce n'est pas du tout, et ce n'est pas un livre des temps passés, c'est un livre qu'il faut lire en comparant sans arrêt Rome avec ce que nous sommes. Alors évidemment, pour nous autres Français, ça fait apparaître tout de suite, je crois, trois problèmes. Premièrement, le français est un néo-latin, comme l'italien et comme l'espagnol, un peu moins que l'italien et l'espagnol, mais presque autant. Et donc, ce livre pose le problème de la relation de notre langue avec sa racine latine. Le deuxième problème, c'est qu'on voit apparaître dans ce livre, c'est la morale romaine, qui est au fond une morale civique, confrontée avec la morale des sociétés démocratiques. C'est-à-dire qu'on voit bien, j'ouvre cette page qui est là où il énumère, c'est l'article sur le Mos Maiorum. Je ne sais pas d'ailleurs comment il faut prononcer, je suis très malheureux parce que dans ma vie j'avais un père qui, 25 ans avant moi dans le même lycée, avait eu un professeur qui faisait déjà du latin restitué, ma mère venue de Corse prononçait le latin d'église et moi je prononçais le latin à la française. Donc entre Cicero, Cicero et Cicero, je n'ai jamais su prononcer correctement. Mais enfin, le Mos Maiorum, il dit, voilà, les valeurs essentielles des Romains, c'est le travail, le labor, la fidesse, la loyauté réciproque. Ça, c'est extrêmement important parce que tout le droit romain repose sur la fidesse. Et si on veut bien y réfléchir, tout le droit des obligations, c'est-à-dire fondamentalement, notre droit civil vient des grands concepts romains. Ensuite, il y a la virtus, la droiture dans la vie de citoyens et de soldats. Et là, il faut se souvenir que quand Montesquieu dit ce qui est central dans la République ou la démocratie, c'est la vertu, c'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas la vertu au sens de la morale ordinaire, c'est la vertu au sens, au fond, du patriotisme, du civisme. Ensuite, il y a la majestas, la certitude d'être membre d'une nation d'élite. Ensuite, il y a la pietas, c'est-à-dire, au fond, la dévotion au sien, la dévotion à sa famille, à ceux qui nous précèdent. Ensuite, il y a la gravitas, c'est-à-dire la dignité, le sérieux, le sens du respect. Et c'est dans le système romain, au fond, il y a profondément un système d'éducation. À partir de la Renaissance, l'Europe tout entière va emprunter. Et il suffit de prendre les grands noms, si vous voulez, qui comprennent Montaigne ou comprennent Shakespeare. Il est évident que chez Montaigne ou chez Shakespeare, toute la morale romaine est présente. Mais alors, ma troisième question concerne la politique, parce que les maîtres de la politique moderne ont été d'abord l'Angleterre, ensuite les États-Unis, et la Grande-Bretagne, l'Angleterre du XVIIe, XVIIIe siècle, à l'évidence imite Rome dans sa conception de l'Empire, dans sa conception de l'oligarchie, c'est-à-dire du Sénat, et les pères fondateurs américains ont Rome présent à l'esprit. Et je me demande ce qu'est aujourd'hui, ce qui est devenu la leçon de Rome, la leçon politique de Rome dans les démocraties modernes. Alors, ça fait beaucoup de problèmes.
Donc, voilà trois grandes questions, Xavier
Darcos. Le français, la morale et, voilà. Et la politique.
On va les voir les uns après les autres. Xavier Darcos.
D'abord, je félicite Jean-Claude Casanova de cette synthèse qui est tout à fait juste. J'en ajouterai une quatrième tout à l'heure, mais je pense en effet que la question de la langue, la question du fonctionnement civique et de l'organisation politique, ce sont trois notions absolument centrales pour comprendre les anciens. Sur la langue, bien sûr, notre langue est entièrement héritée des Romains, on l'oublie un peu, mais enfin tout de même. Mais ce qui est plus intéressant surtout, c'est que le lexique, je dirais, politique, patrimonial, officiel, les titres, tout cela a été conservé, les consuls, et ça a été conservé non seulement dans les systèmes qui sont les nôtres, très restaurés notamment avec le Premier Empire, mais ça a été conservé plus encore dans le monde de la pontificale. Et donc, nous vivons encore sous des termes et des formules qui nous renvoient, si on fait un effort de mémoire, qui nous renvoie à un lexique romain. Mais on peut passer sur cela. La question de la langue, aujourd'hui, est une question qui est presque secondaire, ne serait-ce que parce qu'on ne parle plus guère de latin et que la comparaison s'établit rarement. Jean-Claude Casanova a la chance de pouvoir prononcer le latin de trois manières. Je crains qu'il n'y ait plus aucune manière pour la majorité d'entre nous. En revanche, alors, très intéressant, les deux notions sur la morale et sur la politique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez les Romains, et je m'interroge sur le fait de savoir si nous avons gardé quelque chose de cela, c'est bien en effet les notions qui ont été évoquées tout à l'heure, celle du travail, celle de la foi jurée, celle de la vertu, celle de la grandeur, de la piété, de la gravité. La plus importante à mes yeux, évidemment, c'est la fidesse. C'est-à-dire cette idée qu'on est engagé par ce que l'on dit ou ce que l'on promet, et surtout qu'on est sans arrêt engagé par rapport à autrui. Pietas et fides vont ensemble. La pietas, c'est ce qui vous rattache à vos ancêtres, à votre environnement, ce que vous devez à autrui, ce que vous devez à autrui. Vous n'êtes rien par vous-même, vous devez quelque chose à autrui. Et la fides, c'est ce qui, à cause de cette dette, vous contraint à vous inscrire dans un dessein collectif. Et la foi, la parole jurée, l'emporte sur toute autre considération. La transgression de la fidèse est un crime affreux pour les Romains. Souvenez-vous, à l'inverse, de tel général romain qui est prisonnier des Carthaginois, Régulus, qui dit « Je vous donne ma parole que je vais repartir à Rome pour négocier et je reviendrai pour subir le supplice qu'on m'a préparé ». Aucun Carthaginois ne doute que cette promesse sera tenue. Ils ont d'ailleurs raison, c'est ce que fera Régulus. Il va à Rome, il revient chez les Carthaginois, se faire couper en petits morceaux. Donc il y a une même si ce n'est pas ce qui se produira finalement, mais enfin, il y a un attachement à la parole donnée comme organisation sociale qui est évidemment une des clés du monde antique. Et on aimerait croire que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais enfin, on vit quand même beaucoup sur un mode d'obligation et de dépendance mutuelle. Et l'Ancien Régime a beaucoup vécu sur ce principe, avant que les monastères n'inventent la démocratie et le vote du prieur qui a entraîné la démocratie que l'on sait. Je voudrais dire un mot aussi sur la gravitas, qui est une notion que nous avons complètement perdue. N'existe plus guère, mais qu'on comprend dès que l'on va dans les sites romains, c'est-à-dire Rome, c'est la grandeur, on manifeste sa grandeur et en conséquence, on se tient bien, voilà, je dirais. Donc il y a un mélange d'exubérance de la puissance et de réserve pour assumer complètement cette puissance sans devenir Miles Gloriosus, un soldat fanfaron, ce qui est un très ridicule. Un des personnages de la comédie italienne, latine, je veux dire, c'est celui qui a la vanité sans la dignité, la manifestation de la puissance sans la retenue. Alors la politique, oui. Mais c'est un monde politique, le monde romain, c'est un monde dans lequel la vie publique et la vie politique se confondent sans cesse, où on organise son destin à travers des grades, à travers la course aux honneurs, comme on dit, qui sont en fait à la fois des fonctions de puissance et qui conduisent à des fonctions politiques. Et même sous le principat, sous l'Empire, lorsque s'organise un pouvoir personnel, on conservera les apparences que les grades sont encore possibles à atteindre, qu'il y a des échelles. On continuera à dire que l'empereur, qui a tous les pouvoirs absolument sur toute chose, n'est que le premier du Sénat, princeps senatus, et qu'au fond, tout le monde respecte les rites de la République romaine. Alors, je voulais ajouter un point aux trois données qu'a indiqué. Il y a quelque chose de plus chez les Romains qui m'intéresse beaucoup et qui, je crois, nous permet de réfléchir au monde d'aujourd'hui aussi. C'est la certitude que cette puissance est fragile et qu'il y a quand même un destin. Il va se passer quelque chose. Alors, on a des scènes formidables. On cite toujours la scène de Scipio Émilien voyant la destruction de Carthage. Tout le monde est en train de se réjouir parce qu'on rase Carthage. Et Scipio Émilien est en pleurs parce qu'il dit « Attendez, mais si Carthage peut tomber, qui a été la plus grande puissance du monde méditerranéen avant nous, s'il n'en reste rien que des cendres, pourquoi pas Rome ?» Bon. Et donc, on voit chez les historiens, on le voit dans la préface de Tite Live, par exemple, qui est un magnifique texte, où Tite Live se dit « Je vais décrire Rome depuis sa naissance, ab urbe condita, depuis la création de la ville, jusqu'à nos jours, mais qu'est-ce qu'il y a après? Jusqu'où cela ira-t-il, en fait, voilà. Et quand est-ce que ça risque de s'arrêter ?» Et donc, il y a un sens aigu de ce qu'ils appellent le « fatum », c'est-à-dire, au fond, la chose est dite, le destin, la destinée, et qui obère une grande partie de leur comportement, de leurs superstitions, de leurs inquiétudes, voire de leurs abandons. À un certain moment, on voit les Romains considérer que, de toute façon, ça ne pouvait plus durer et qu'il faudrait que les choses s'abandonnent. Cette angoisse-là, même si le fatalisme n'est pas le défaitisme, cette angoisse-là me paraît devoir être ajoutée aux questions que posait tout à l'heure très justement Jean-Claude Casanova, parce que je crois qu'elle nous traverse aussi. D'autant que les Romains avaient le sentiment que ce qui pouvait les faire échouer l'Empire, ce n'était pas la romanité, c'était la complexité d'un empire trop vaste, qui allait de l'Écosse à la Palestine, de la frontière allemande au Maghreb, et qui peut-être un jour allait craquer parce que l'organisation civique, le rôle des citoyens, les relations de pouvoir entre les divers proconsulats et Rome devenaient compliquées. Et donc, de ce point de vue-là, une comparaison avec des structures comme la structure européenne face à des nations plus puissantes mais unifiées politiquement. Prenons la Chine pour dire simple. Avec l'exemple que nous avons eu avec la Russie, hein, qui a été un empire éclaté aussi, comme l'avait montré Hélène Karadankos très, très tôt, on peut penser que cette question du déclin possible d'une structure politique trop vaste et conduit plus ou moins à des formes de fédéralisme ou de négociation continuelle de pouvoir, cette question du déclin de ce type de structure est quand même présente dans la pensée moderne.
Oui, on peut aussi en tirer comme certitude que les empires sont voués à une seule chose, à disparaître, et que Absolument. Donc il faut se garder sans doute d'édifier des empires. Dans votre livre sur ce dictionnaire amoureux de la Rome antique, vous montrez bien qu'en fait, même dans les périodes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de dictature de l'empereur, il y a une dialectique permanente avec l'opinion. Alors l'opinion à l'époque, ça n'est pas tout le monde, ce sont évidemment les citoyens. Mais cette dialectique reste et elle continue d'influencer le jeu politique au sens propre du terme. Et peut-être avons-nous gardé de cette organisation-là, d'ailleurs, la notion de clientèle. Oui. Notion de clientèle tant décriée au nord de l'Europe et tant partagée au sud de l'Europe, toujours présente au sud de l'Europe en tout cas, est-ce que ça n'est pas aussi ça tout à fait un leg de la romanité ?
Clientélisme
Xavier,
même.
Xavier Darcos.
Oui, parce qu'en fait, donc, le clientélisme, c'est le fait qu'un patron, un homme puissant et riche, nourrit. Des affidés, des gens qui se mettent dans sa dépendance. Ils les nourrissent au sens propre, d'ailleurs. Ils viennent tous les matins chercher leur sportule, c'est-à-dire soit à l'origine un petit panier avec des vivres, ensuite une pièce ou je ne sais quoi. Et en échange de quoi, ils lui rendent service, ils font la claque lorsqu'il est dans des réunions, ils l'accompagnent lorsqu'il va au forum pour qu'il soit entouré par une foule approbatrice, ils lui servent de petites mains, etc. Donc le clientélisme est en effet un des moyens du pouvoir. Mais pour aller plus loin dans ce que vous disiez, Jean-Marie Colombani, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, de fait, l'histoire romaine, et notamment l'histoire de la République, est entièrement faite de la question que vous posez, c'est-à-dire de ce dialogue entre les puissants et le peuple, entre les patriciens et les plébéiens. Dès qu'on lit un livre d'histoire romaine à n'importe quel moment, ou un texte romain de n'importe quelle époque, on tombe immédiatement sur ce que les Romains appelaient eux-mêmes la guerre sociale, c'est-à-dire les tensions entre les familles issues, qui se prétendaient issues des premiers patriciens de l'entourage de Romulus, parce qu'on n'avait pas peur de se trouver des ascendants glorieux, et le peuple qui veut accéder lui aussi aux honneurs, aux puissances. Et donc, toute l'histoire, les grands personnages que nous connaissons de l'histoire sont des personnages qui ont été associés à la guerre sociale. Les Gracques, par exemple,
oui. Hein,
qui est porte-parole de l'opinion plébéienne, tribun de la plèbe, et qui tous les deux seront assassinés. La guerre civile de Marius et de Sylla, qui sont aussi des guerres où des généraux vainqueurs qui se prétendent issus de soutenir le peuple finissent par s'imposer. Et le césarisme lui-même, puisque César, par rapport à Pompée, César bien prétendait sûr être issu des populares, représenter les gens simples, alors que Pompée se présentait comme une sorte d'aristocrate manipulé ou enfin manipulant le Sénat. Donc cette dialectique que vous signalez, c'est au fond l'histoire de Rome. Et ça explique pourquoi, un certain moment, pour arrêter cette espèce de conflit perpétuel qui est l'histoire romaine elle-même, eh bien, tout le monde s'habituera à l'idée qu'il n'y ait qu'un seul chef. Et donc le principal, le passage à l'Empire, à partir du tout début de notre ère ou juste avant, c'est au fond un choix par défaut pour faire cesser des tensions qui font perdre du temps à tout le monde et qui affaiblissent au fond la croissance romaine.
Jean-Claude Casanova.
Oui, j'ai toujours été persuadé que l'histoire romaine, la politique romaine, les auteurs latins sont de puissants éducateurs politiques, et même à certains égards supérieurs aux Grecs, parce que, bon, bien entendu, Aristote, Platon, c'est très, très important, très grand, etc. Il n'y a pas l'équivalent latin, mais concrètement, les Romains voient les deux grandes difficultés qui sont permanentes et que nous avons dans la politique moderne. La première difficulté, c'est si j'ose dire, la relation entre le peuple et ceux qui dirigent. Et il y a une ruse ou une vertu romaine, c'est comment faire en sorte que ce soit le peuple romain qui dirige, alors qu'on sait bien que ce sont les sénateurs qui dirigent. Donc, et Rome a des élections, a une division, un système électoral complexe d'ailleurs de division qui permet que la loi de la majorité ne joue pas complètement. C'est comme s'ils avaient des systèmes électoraux qui permettent de sauvegarder le pouvoir du Sénat, etc. Il y a donc la politique, c'est malgré tout qu'il y a des gens qui commandent et des gens qui ne commandent pas. Et il faut un principe de légitimité pour que ça tienne ensemble, et les Romains l'ont constamment tout au long de leur histoire, jusqu'à la fin, jusqu'à l'effondrement. Puis ils ont le deuxième problème, c'est comment faire vivre ensemble des peuples différents. À Lyon, dans le musée, très beau musée romain qui est à Lyon, il y a cette grande plaque dont je ne sais plus le nom exact, mais qui est l'élargissement de la citoyenneté romaine. C'est-à-dire que c'est une décision qui est prise...
Par Claude.
Oui. Le mari de Messaline, alors, oui. Bon, le pauvre. Mais donc, il y a cette idée qu'on généralise la citoyenneté, que donc, au fond, on a à la fois, on est citoyen romain et en même temps citoyen local. Et il y a une combinaison, et ce qui est le problème des sociétés humaines, dès qu'elles sortent de la république primitive, de la petite cité, dès qu'on veut que la communauté comporte des peuples différents par la langue, les mœurs éventuellement, et donc ce sont le grand problème européen. Mais en même temps, Rome va connaître toutes les formes de corruption politique. C'est-à-dire que c'est Rome qui, on voit très bien décrit, la démagogie, la corruption, le clientélisme, la sportule. Bah, d'une certaine façon, les sociétés modernes sont des sociétés sportulaires. Oui, parce que les parlements votent des avantages.
Ça s'appelle subvention aujourd'hui.
Oui, bien sûr, ça s'appelle subvention. Mais quelle différence il y a entre la subvention et la sportule ? C'est exactement la même chose. Et l'utilisation du pouvoir politique pour se nourrir, pour d'abord, en général, les gens qui commandent sont mieux nourris que les gens qui sont commandés. Mais pour que les gens qui sont commandés supportent les gens qui commandent, il faut qu'ils les nourrissent. Et donc, il y a cette relation qui fonctionne. Tous les vices de la politique apparaissent et sont très très bien décrits dans Rome. Et puis le vice final, c'est l'immense difficulté, c'est quelle est la dimension optimale d'une entité politique. Le problème de Rome, c'est qu'elle a été gigantesque. Son système militaire n'a pas tenu, il n'a pas été possible d'avoir des légions classiques, c'est-à-dire formées de paysans citoyens, qui étaient les grandes légions romaines, un admirable instrument de combat, le meilleur certainement de l'époque. Ils ont dû faire des légions étrangères, si j'ose dire, et qui n'ont pas tenu, qui se sont effondrées en plusieurs endroits. Enfin, ils ont eu un problème militaire qu'ils n'ont pas pu résoudre, mais ils avaient quand même résolu un grand problème économico-social des grandes unités. Ils avaient résolu le problème des voies, et le problème des communications. Rome avait le système impérial romain à monter un système de voies et de communications dont il y a encore des traces en Europe.
Absolument. Xavier Darcos.
Oui, un mot sur la question qui vient d'être évoquée par Jean-Claude Casanova, qui est un peu la même d'ailleurs à travers deux aspects, la question de la citoyenneté et la question de la dimension. En fait, c'est une question qui traverse toute l'extension romaine. Que faire de ces gens que l'on assimile, que l'on colonise, pour dire les choses clairement, même si le mot est discuté, mais enfin, bon, peu importe. Les gens qui, petit à petit, sont soumis à la loi romaine. La question s'est posée immédiatement vis-à-vis des Gaulois, puisque ça a été quand même là que l'expansion s'est faite la première. Et petit à petit, on a été amené à l'idée qu'il fallait qu'ils aient quelque chose comme le droit de cité, qu'on leur donne la civitas, ce qui n'avait pas de soi. Tacite décrit l'horreur des premiers sénateurs romains qui voient arriver des sénateurs gaulois. Bon, ça leur paraît sommet de l'horreur. Bon. Et donc, et petit à petit, une fois que l'Empire s'est étendu, alors il y a les premiers édits de Claude, en effet, qui a touché une partie de la Gaule et de l'Hispanie, et puis jusqu'à l'édit de Caracalla, qui, comme chacun sait, donne le droit de cité à tous les citoyens. Alors imaginez, c'est comme si en 1950, par exemple, on avait donné la citoyenneté française à la totalité des territoires d'Afrique, par exemple, de la communauté, qui pourrait venir en France, y installer légitimement, voter, occuper des emplois publics, etc., de la même manière. C'était quand même ça. Donc c'était un choix tout à fait considérable. D'autant que, comme l'a dit aussi Jean-Claude Casanova, la circulation était possible. Ces gens n'étaient pas confinés. Et donc, le choix qu'a fait Rome d'aller vers une sorte de romanité universelle était un choix peut-être dicté par les circonstances, mais c'était un choix risqué.
C'était un grand choix politique majeur et qui d'ailleurs remet en cause ou est de nature à remettre en cause ce qu'on enseigne dans l'histoire ou ce qu'on enseignait, je ne sais plus si on enseigne encore, à savoir les grandes invasions, les grandes migrations et les grandes invasions qui n'en étaient pas nécessairement, puisque précisément les autres peuples avaient la nationalité ou la citoyenneté plus exactement romaine. Et il y a d'ailleurs, dans la dernière livraison de la revue Commentaire, Jean-Claude Casanova pourra nous en dire davantage, un texte de M. de Mézil qui explique justement, à partir de restes que l'on a retrouvés de chefs francs, en quoi tout ce qui entourait ces chefs francs et donc la francitude de l'époque était totalement, consubstantiellement romaine, bien davantage que, entre guillemets, barbare. Et c'est ça vraiment la force et l'originalité de l'Empire romain.
Ça a été l'assimilation, justement. C'est-à-dire qu'au fond, Alors on le voit dans le monde gallo-romain, ça fait frappant. Quand on franchit la frontière de la Provence vers Rome, on ne voit pas tellement un territoire différent, hein, au fond. Hein, quand on est... bon. Donc c'est la grande force de la romanité, ça a été l'assimilation. Ça a été très bien montré par un éminent penseur qui s'appelle Rémi Braque dans son livre qui s'appelle « La voie romaine hein. ». Donc c'est de l'assimilation. Et on a des systèmes hybrides de toute nature, mais petit à petit quand même qui sont plus romains que locaux. Quoi. Enfin, on en a un peu les deux. Et comme par ailleurs, à partir du IVe siècle, on a des voies de christianisation. Je rappelle que les Visigoths qui sont rentrés dans Rome n'ont pas pillé les églises de Rome parce qu'ils étaient christianisés. On les présente toujours comme des espèces de brutes épaisses qui arrivent du fin fond du Caucase, pas du tout. C'était des peuples chrétiens, germanisés.
Et tous ces peuples parlaient le latin.
Qui parlaient parfaitement le latin, d'ailleurs. Et donc, cette grande sphère, au fond, était une sphère d'assimilation, de romanisation progressive, qui a créé des civilisations hybrides. Mais ça a été peut-être l'une des raisons pour lesquelles Rome a tenu si longtemps. Imagine-t-on qu'ils aient voulu faire au contraire, refuser complètement toute assimilation, refuser les mariages mixtes, refuser la citoyenneté, interdire les déplacements, choisir une solution dictatoriale de cette nature. Évidemment, le petit monde latin aurait cédé devant l'immense monde romain. Et donc le passage de la ville au monde a été géré d'une manière extrêmement intelligente, au fond, bon gré mal gré. Je ne sais pas si c'est un calcul, mais ça a été géré intelligemment.
Jean-Claude Casanova.
Est-ce que je peux interroger Xavier Darcos sur un livre qui m'a toujours fasciné, mais dont je voudrais comprendre quel effet, qu'est-ce que ça traduit? Vous admirez profondément Tacite, qui est un écrivain et un observateur immense. C'est le livre sur la Germanie. Oui. C'est au fond... Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un Romain comme Tacite, si vous voulez, avec, au fond, nostalgique de la vieille Rome, quel effet fait sur lui l'apparition de ce monde étrange dans lequel les femmes n'ont pas la même position que dans Rome, dans lequel l'aristocratie guerrière est d'un type différent? Enfin, comment vous expliquez le choc germanique sur le vieux Romain qu'est Tacite?
Vous cherchez à mieux comprendre comment Nicolas Sarkozy a pu appréhender Angela Merkel
et
nos amis allemands.
Des Français avec les Allemands.
Xavier Darcos.
Alors, Tacite s'est intéressé à la Germanie à cause de Germanicus, d'abord. Il y a une histoire personnelle, qui était son beau-père. Mais là...
Un général, faut-il le rappeler.
Un grand général. Mais la question de Jean-Claude Casanova est tout à fait pertinente, parce qu'on pourrait penser, a priori, que c'est un Romain qui regarde les Germains en disant ce qu'on a toujours dit des Germains chez les Romains, à savoir c'est des barbares, ils sont insoumis, c'est des violents, on ne peut rien régler avec eux, et d'ailleurs, au point même d'ailleurs que plus tard, on fera un limès définitif en disant, bon, tout ce qui est derrière, on met plus des pieds en Germanie après le fameux désastre de Varus, le Clades Varana, dont on a parlé pendant des siècles, bon, où toute la légion romaine a été ratiboisée. Mais en même temps, quand on dit Tacite, il ne dit pas seulement ça, parce qu'il est fasciné par une peuplade, une nation, qui est encore en prise directe avec la nature, qui ne s'est pas affadie, qui est apro-combat, qui n'a pas été corrompue par la civilisation. Et finalement, il voit les Germains comme on pourrait regarder les premiers Romains tels qu'on les décrivait dans la légende romaine. Et donc ça fait un texte diphonique, je ne sais pas comment il faut dire, ambivalent, qui était extrêmement intéressant. Le texte de la Germanie, Jean-Claude Casanova a raison de le dire, c'est un texte qui vraiment mérite l'intérêt par ce double jeu continuel que l'on sent chez un homme comme Tacite, qui à la fois doit dénoncer l'autre, et en même temps se dit tout de même cet autre-là, il n'est pas loin de ce que nous étions à l'origine et que nous ne sommes plus.
Oui, c'est d'ailleurs un texte qui va jouer dans l'histoire allemande un rôle considérable. La Germanie de Tacite va être un des textes éducateurs, d'une certaine façon, du nationalisme allemand.
Bien sûr.
Alors on a comme ça dans ce livre, Dictionnaire amoureux de la Rome antique, ça permet une promenade, comme le disait Jean-Claude Casanova tout à l'heure, une promenade vraiment au gré de l'inspiration, au gré du moment. On a notamment toute la lignée des empereurs qui se succèdent les uns après les autres, avec des histoires parfois totalement extravagante. L'histoire politique aussi a évidemment une grande place, et notamment, au fond, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Xavier Darcos, la naissance du césarisme, dont évidemment est directement issu le bonapartisme en France. Oui. Je veux dire, c'est entre autres une des autres traces que nous portons de la Rome antique.
Xavier Darcos. Si quelqu'un vraiment a contribué à faire renaître le lexique romain dans la politique, c'est bien Bonaparte, premier consul.
Parce qu'ils étudiaient le Deviris.
Parce qu'ils disaient que ça, c'était leur culture de fond. Alors, les empereurs romains, c'est évidemment un mélange des genres, parce qu'on est fasciné par ce qu'on dit des Julio-Claudiens, c'est-à-dire Tibère, Caligula, Claude et Néron, qui sont quand même des Césars fous. Bon, voilà. Et on est fasciné en même temps parce qu'on les a à travers les récits qu'en donne Suétone, qui lui écrit l'époque de Trajan, et qui doit, pour montrer
la grandeur de
la lignée des Antonins, doit dénigrer les Julio-Claudiens. Donc certainement, il doit exagérer. Et en plus, il met toujours en exergue les histoires les plus scabreuses, les plus cochonnes, les histoires de sexualité déviante, etc., parce qu'il sait que ça va amuser son lecteur. En quoi il a raison, d'ailleurs. Mais nous ne nous y trompons pas. Même si la plupart des empereurs ont fini assassinés, ça a été quand même une succession assez violente, le système d'adoption, petit à petit, a fonctionné. Dire, au fond, on choisit plutôt le meilleur que n'importe qui. En tous les cas, de plus 100 à plus 350, tant qu'on a pu tenir avec l'Empire d'Orient avant que l'Empire d'Orient apparaît, au fond, quand même, le système impérial romain a fonctionné. Avec des empereurs qui étaient plutôt des gens raisonnables, même si la toute-puissance entraînait des excès. Le siècle des Antonins, en particulier, était considéré dès l'Antiquité comme un moment de grâce absolue, de très grand bonheur pour les peuples. Et donc, méfions-nous de ne pas voir l'empereur romain uniquement à travers Caligula ou Néron.
Absolument. Voilà ce qu'on... À moins que Jean-Claude Casanova, vous souhaitiez aborder un autre...
Je voulais vous interroger sur le problème de la réception du christianisme, au fond. Parce qu'il y a un thème dans l'historiographie qu'on trouve dans Gibbon, c'est que la vraie cause du déclin, c'est le christianisme, au fond, l'amollissement de Rome par le christianisme. Est-ce que ça vous paraît confirmé? Parce que je sais qu'il y a eu d'immenses travaux que je ne connais pas, hélas, mais... Quel est votre sentiment sur, au fond, la fusion de la Rome impériale avec le christianisme?
Je ne connais pas le détail de l'état de la science à ce sujet. C'est en effet un débat extrêmement connu. Alors, c'était un reproche qu'on se faisait mutuellement, si je puis dire, parce que les premiers auteurs chrétiens considéraient que le christianisme était la résultante de la décadence romaine. Lorsqu'on lit Saint-Augustin dit « montre les symptômes d'une décadence, d'une dégénérescence à travers les mœurs, à travers les jeux du cirque, à travers l'absence de religion, de religion du salut, de religion de l'intime. » Et il dit finalement cette civilisation était destinée à périr et il fallait que vienne la cité céleste, il fallait que vienne le christianisme.
Donc, on a ça dans le film de Fellini, oui. Qui est au fond un film chrétien sur Rome.
Oui, absolument, le Fellini Roma dit tout à fait ça. Et puis évidemment, il y a eu ensuite les historiens du XVIIIe siècle, le livre de Gibbon en particulier cité, et même Montesquieu aussi, qui disent l'inverse, qui dit finalement, à partir du moment où on a imposé une puissance religieuse unique, à partir du moment où on a établi une sorte d'intercesseur intime entre les êtres et la foi, à partir du moment où les grandes valeurs de la puissance, de la violence, de la force ont été dénigrés, et bien évidemment, on a affadi le génie romain et on a conduit à sa décadence. Ce que je sais, c'est que le christianisme s'est d'abord développé dans des milieux pauvres, dans des milieux d'esclaves, qu'il a été le rival, comme je dis d'ailleurs dans mon livre, de Mithra, qui a été une divinité venue de Perse, plutôt, enfin, et qui était une divinité auquel étaient très attachés les soldats, qui étaient au fond de même statut social pour la plupart d'entre eux que les premiers chrétiens, et qu'il y a eu un conflit entre ces deux divinités possibles. Finalement, c'est le christianisme qui a gagné, que ça aurait pu être Mithra. Bon. Et que ce qui a fait gagner le christianisme, c'est précisément que c'était une religion qui disait à ceux qui ne sont rien qu'ils étaient quelque chose. Quoi. C'est une religion de...
On dit que le stoïcisme ne pouvait pas être la religion du peuple.
C'est tout à fait juste, puisque c'est ensuite dans les milieux stoïciens, comme vous le savez, que le christianisme trouvera une plus grande dignité, que ce sont des penseurs stoïciens qui récupéreront une partie du... ou des gens qui ont été formés à l'école stoïcienne, qui deviendront les premiers penseurs chrétiens. Tout à fait. Est-ce que ça a entraîné la décadence? Moi, je crois que les conditions sont extérieures. Mais il est vrai qu'il manquait à l'Empire romain une relation personnelle de la créature à Dieu. que le formalisme excessif de l'empire, de la religion romaine, l'absurdité de ses rites, le côté fonctionnaire des prêtres, mettait trop à distance la chose religieuse de la vie privée et ne promettait rien. Et donc, peut-être s'il y avait eu une religion plus de l'intime plus tôt, je dirais vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, s'il y avait une religion sotériologique meilleure que les religions orientales, peut-être
vous,
que les choses auraient été différentes.
Bien la littérature latine, le portrait que fait Fellini dans le Satyricon, c'est au fond... Rome appelle le christianisme parce qu'il y a une cruauté absurde, il y a une espèce de... c'est un monde sans... un monde cruel, un monde dur, et que donc il y a un besoin de douceur, de tendresse, etc. Ouais. Est-ce que c'est vrai, comme c'est tranché à ce point ou...
Il est exagéré, et puis il est très influencé par sa lecture de Pétrone, son Satyricon. Donc les deux films, évidemment, se... Je crois qu'il y a du vrai. Je crois qu'il y a un moment... On le voit très bien, d'ailleurs, dans la série qui a été faite, qui s'appelle Rome, qu'on a vu sur Canal+, qui est tout à fait... il y a un moment, britannique. Quand même, on cherchait un peu du sens. Enfin, on cherchait un peu de la transcendance. On ne pouvait pas avoir que du sang et du sexe. Et peut-être que ce qui a manqué, c'est de pouvoir la construire de l'intérieur du monde romain et qu'il ait fallu la chercher soit d'abord dans les religions orientales, soit dans l'isisme, les religions qui venaient de l'Égypte, soit ensuite dans une religion qui était considérée comme une secte judaïque à l'origine, qui était le christianisme.
Voilà ce que nous pouvions dire, ce que nous souhaitions dire, échanger avec Xavier Darcos autour de ce livre sur le dictionnaire amoureux donc de la Rome antique, qui est encore une fois une recommandation de notre part, parce que c'est vraiment un pur régal. On ne veut pas laisser non plus, je ne voudrais pas non plus laisser partir Xavier Darcos qui, sans lui l'interroger sur ses fonctions actuelles et sur, mais brièvement, parce qu'il nous reste évidemment très peu de temps, Xavier Darcos est donc aujourd'hui président de l'Institut français. L'Institut français, c'est au fond le réseau de tous les instituts culturels français de par le monde. Et on s'aperçoit aujourd'hui, Xavier Darcos, que c'est un élément, au fond, stratégique majeur. Et donc, comme vous avez, à la fin de l'année, de cette année, donc, tenu un grand colloque pour faire un petit peu le point là-dessus, d'autres stratégies de conquête culturelle, notamment de la part de la Chine, mais aussi de la part de nos amis allemands, etc. Alors que nous, on a toujours l'impression d'être en position de repli permanent, notamment pour des raisons de rigueur budgétaire, et ainsi de suite. Voilà, juste quelques éléments pour nous fixer les idées sur cet enjeu.
Alors, en effet, l'Institut français essaie de coordonner l'action culturelle allemande, mais ce que nous faisons en France, tout le monde le fait, y compris les pays émergents. Vous avez cité la Chine. Le chiffre, c'est que la Chine a commencé à créer des centres Confucius en 2004, c'est-à-dire 8 ans. Il y en a aujourd'hui 340 dans le monde quand même. Nous avons commencé en 1922, nous en avons 140. Donc, ceci devrait même suffire à répondre à la question que vous posez. Évidemment, la présence de la culture d'un pays, de centres culturels, d'enseignement de sa langue, de transmission de ses connaissances, de ses savoirs, de l'état de ses idées, de ses artistes, de ses créateurs, et cet échange-là, c'est un moyen d'influence considérable. La première chose qu'a fait Hillary Clinton lorsqu'elle est arrivée au département d'État américain, c'est de créer une structure qui fait du soft power. Lors du colloque dont vous parlez, je peux vous assurer que le représentant des États-Unis était là pour voir ce que nous disions. Donc c'est devenu un moyen d'influence politique absolument considérable dans un contexte que tout le monde connaît, qui est celui d'une compétition économique dans laquelle un pays comme la France ne peut pas être en compétition économique sur le coût du travail, sur le coût sur l'industrialisation, sur la puissance de production avec des très, très, très grands pays émergents. Mais en revanche, nous pouvons conserver notre influence parce que nous sommes capables d'exporter nos idées, d'être présents sur les scènes internationales, de faire valoir notre intérêt à agir lorsqu'il s'agit de questions de culture ou de développement. Et donc, c'est une manière absolument majeure de conduire une stratégie diplomatique. D'ailleurs, personne ne le conteste. Alain Juppé, le ministre d'État, était venu à ce colloque et a bien exprimé comment, à ses yeux, en effet, la stratégie diplomatique a besoin impérativement aujourd'hui du soft power, enfin de la politique d'influence par la culture.
On a plutôt, pourtant de l'extérieur, on a toujours l'impression qu'on est quand même en recul malgré tout, parce que le tissu s'est peut-être un petit peu affaibli, a été réduit, parce que ici et là on n'a plus trop les moyens de faire fonctionner ici les instituts qui apprennent le français, voilà, ou bien d'autres qui ont une vocation culturelle plus large. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une nouvelle prise de conscience, donc un nouveau départ, quitte à aller chercher des financements privés, ou est-ce qu'on est toujours dans, disons, dans la sphère de la puissance publique, donc on voit bien le Quai d'Orsay, comme d'autres institutions, ont été obligées de réduire leurs moyens, ainsi de suite.
Oui, ça, Xavier Darcos. La réduction existe, elle est tout à fait fâcheuse, parce que c'est peu de moyens, et qui, lorsqu'ils sont retirés, ont des effets considérables. Lorsque vous formez un enfant d'une famille un peu influente dans un pays émergent à notre système, à notre langue, à notre pensée, que vous l'accueillez en France et qu'il repart chez lui, vous en faites un ami de la France pour toujours. Vous en faites un allié pour toujours. Et peut-être montera-t-il une entreprise, une PME-PMI, sera-t-il un homme politique important. Ce sera pour vous un relais. Et ça coûte quoi? Lorsque vous voyez Julia Kristeva aujourd'hui qui vous explique ce qu'elle est devenue parce que simplement elle a été accueillie dans une école française en Bulgarie lorsqu'elle était enfant, enfin, c'est considérable. Donc ce repli est dommageable. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans ces contextes-là, ce qu'il faut, c'est se redéployer. La carte des instituts français a été faite soit juste entre les deux guerres, soit plus encore après la Seconde Guerre mondiale. D'où le fait que, par exemple, nous avons au moins un centre culturel par Land en Allemagne. Alors qu'aujourd'hui, sans doute, il faudrait que nous soyons plus présents en Chine. Nous n'étions pas à Singapour, il faut que nous y soyons. En Inde, nous avons un réseau très considérable d'alliances françaises qui font très bien leur travail, mais il nous faut un institut un peu plus visible. Nous n'étions pas assez présents dans les pays du Golfe. Nous manquons de présence encore en Amérique du Sud, qui se tourne de plus en plus vers son ouest à elle, c'est-à-dire vers notre est à nous. Et donc, il faut fermer ici pour ouvrir là, je dirais. Et ce redéploiement est nécessaire tout simplement parce que la géopolitique a changé.
Jean-Claude Casanova, un mot.
L'organisation, comment vous êtes-vous constitué par rapport à l'administration traditionnelle ?
C'est un établissement public qui va expérimenter le rattachement direct des instituts de quelques pays à la maison mère. Et si ça fonctionne, l'idée de la loi, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul réseau unifié sur la totalité de la planète.
Voilà, donc ça c'était Xavier Darcos, président de l'Institut français. Et auparavant, nous discutions avec Xavier Darcos, auteur de Dictionnaire amoureux de la Rome antique qui est édité chez Plon. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention, de votre fidélité à La Rumeur du Monde qui était, comme chaque semaine, réalisée par Brigitte Bouvier, préparée par Meryl Moneghetti. À la console technique aujourd'hui, Lucas Vaillant était avec nous. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Jean-Claude Casanova et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous naturellement le premier samedi de janvier 2012. Ce sera le 7 janvier. Et en attendant, passez de bonnes fêtes. Merci à vous tous et donc bon week-end.